voici de retour avec Christian Cailliol pour continuer notre visite de la France. Et aujourd'hui, c'est une histoire d'eau. Bonjour Christian.
Et bonjour Francis, bonjour à tous. Une histoire d'eau, effectivement.
Alors, c'est quoi ça?
Ça faisait un bon moment que l'idée me trottait dans la tête de suivre grosso modo le cours du Var, de sa source jusqu'à son embouchure. Et donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, je me suis lancé à découvrir tout ça. Et je n'ai pas fait ça en été, il ne faut pas croire. Hein, je n'ai pas fait ça pendant les températures clémentes. Au contraire, je fais ça en hiver pour être plus tranquille. Et aller voir mes images sur le site Radio Galaxie et aussi sur mon site perso.
Lequel ?
randovttvideo.free.fr. Vous verrez la vidéo et vous verrez que c'était beaucoup plus tranquille, oui. On est allé jusqu'à la neige. Avant ça, d'abord, un mot. Le Var, c'est une exception en France. C'est un fleuve qui est relativement court, puisqu'il ne fait que 114 km, mais qui va traverser les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, mais il ne traversera pas le département éponyme. Donc je suis remonté jusqu'à sa source, presque jusqu'à sa source, arrêté à 2 km, à l'endroit qui s'appelle le Saut du Var, bloqué par la neige. On est au-dessus d'Antrome, et la source elle est à 2 km un peu plus haut, au lac d'Estinck, à une altitude de 1790 mètres. Et par la suite, donc, on a 115 km jusqu'à Nice et la Méditerranée. Donc le Var a marqué la frontière de toujours avec le royaume voisin, la Sardaigne, mais il faudra attendre, pour le franchir, il faudra attendre un pont, le premier pont sur le Var, qui date du 19e siècle.
Hein ? Ah ouais, c'est très récent.
C'est bien sûr, c'est récent, oui.
C'est énorme, ouais.
Il ne se traversait pas, c'était l'étranger. Alors, là, je rappelle brièvement un épisode évoqué dans d'une émission précédente, l'épopée héroïque des résistants niçois, les barbés, qu'on appelle. Et ils luttèrent entre 1792 et 1814 à l'occupation du comté de Nice par les troupes républicaines françaises et impériale. Cette résistance ne prit fin qu'en 1815 par la restitution du comté de Nice au royaume de Sardaigne. Le comté de Nice ne deviendra français qu'en 1860 sous Napoléon III par référendum, un arrangement. Avant d'atteindre la côte, notre voyage ne sera pas sans intérêt. Que de sites merveilleux sur les deux rives. Villages perchés, des clus de rêve, des gorges exceptionnelles, d'énormes cascades. Commençons notre descente. 15 km en aval donc du fameux saut du Var, nous voici à Guillaume, un village protégé depuis une hauteur par un château dit château de la reine Jeanne. Autrefois une construction médiévale attribuée à Charles Ier d'Anjou, comte de Provence, frère de Louis IX, Saint-Louis, et qui sera à la fin du XIVe siècle, agrandi et remodelé par le bon roi René. Il sera chargé, avec la présence d'une garnison permanente, de la lutte contre les invasions des compagnies de routiers, ces mercenaires qui mettaient à feu et à sang les régions du XIIe au XIVe siècle et aussi chargé de la gestion des querelles de succession dans le comté de Provence. Pourquoi un château là et un pont dit de la reine Jeanne? Mais qui était-elle? Alors la reine Jeanne, donc on lui attribue un château, des ponts, voilà. Elle était née en 1326. Elle est la quatrième génération descendant en droite ligne de Charles Ier d'Anjou, frère de Saint-Louis. Orpheline à 3 ans, elle devient l'unique héritière d'une dynastie dans l'impasse, pour la couronne de Naples. À 8 ans, on la marie à André, 7 ans, fils du roi de Hongrie, et un conseil de régence assurera la gestion du royaume jusqu'à leur majorité. 9 années passent. Jeanne accouche d'un garçon, mais elle n'était pas encore mariée à André. Ils vivaient comme ça, c'était prévu, ils étaient trop jeunes. Donc, l'enfant est illégitime. On verra plus tard l'importance de ce détail. Puis suivra une période mouvementée. Son mari, André de Hongrie, est assassiné. À 17 ans, Jeanne est soupçonnée d'en avoir été l'instigatrice. Par la suite, elle se remariera 3 autres fois et aura une fille. Mais ni ses enfants, ni ses maris ne lui survivront. Elle va régner 40 ans sur le royaume de Naples, jusqu'en 1382, date de son assassinat par son cousin Charles d'Anjou. Vous voyez que c'est un peu chaotique.
Drôle de famille.
Drôle de famille. Elle a toujours été la reine de cœur des Provençaux, leur fée bâtisseuse, un peu leur Mélusine. En plus du château de Guillaume, pas moins de 2 autres ponts assez semblables portent son nom dans les Alpes d'Haute-Provence. Le premier, proche de la nationale 202 sur le Coulon, entre Anneau et Entrevaux. Il est daté du 14e. Le second, bien visible de la départementale 17, à une 15aine de kilomètres au sud de Sisteron, daté lui du 16e. On le traverse uniquement à pied. Et bien qu'il ne semble mener nulle part, il conduit à un village aujourd'hui en ruine. C'est un très beau pont jeté sur le Vençon, auquel est attachée une légende, peut-être une réalité. La reine Jeanne, réfugiée au château voisin de Salignac, aurait donc accouché, on en parlait il y a un instant, secrètement, d'un enfant illégitime qu'elle cacha dans le village de Saint-Symphorien. En échange du silence de la population, elle fit construire ce pont et les déchargea aussi du droit d'albergue. Alors ça, c'est un droit réservé au seigneur qui lui donnait droit du gîte et du couvert. Elle décharge le village de ça. Et aussi du droit de cavalcade. Alors la cavalcade, c'est aussi un droit lié au seigneur qui est de lui fournir des chevaux nécessaires à ses besoins lors d'un transport. Elle les décharge de ça. Il n'est pas certain du tout que Jeanne Ière, reine de Naples, comtesse de Provence, ait réalisé toutes les constructions qui lui ont été attribuées. Mais la Provence, un petit peu abandonnée depuis l'Empire romain, s'est trouvée, grâce à elle, promue au rang de royaume. Sans le sou, Jeanne Ière a peu à peu concédé aux différents villages des droits de façon avantageuse, ce qui explique sans doute sa popularité. Reprenons notre descente vers Nice. Le petit Collado Provençal, bien sûr, tu connais, toi, Francis.
Oui, il me semble que je suis allé faire un tour, il me semble, il y a quelque temps.
Alors, inutile de traverser l'Atlantique pour découvrir des gorges vertigineuses et des ocres rouges. Parcourez-les plutôt en voiture, celle de Daluy, où coule le Var 300 mètres plus bas, au fond de ce canyon. Bien entendu, ça ne vous empêchera pas de marcher un peu, par exemple, vous rendre au point sublime par une courte rando d'environ 4 km à portée de tous. Le Var a creusé dans des cendres volcaniques et des dépôts sédimentaires datés de 25 millions d'années, des dépôts qui ont subi une oxydation du fer. Il faut absolument parcourir aussi celle de son affluent, le Sien. La route là épouse tous les contours sinueux des défilés. Elles ne sont pas aussi imposantes et moins évasées que celles de Daluy, mais elles sont quand même uniques en Europe. Une symphonie de couleurs qui va du rouge sang à la couleur lit de vin, qui tranche avec le vert foncé des mousses, et au fond, le ruisseau ne dépasse pas parfois 2 à 3 mètres de large. Ensuite, poursuivez la route vers la mer. Sortez rive droite, sur la D17, en direction de Gilette. Vous voici maintenant au plus bel clu du 06. On appelle clu là-bas des gorges, des canyons, voilà. Ce sont les plus belles. Il faut passer par des villages perchés comme Roquesteron, Cigale, Aiglun. On commence par la clu de Riolan. Vous la franchirez en premier à son point bas. Puis vous admirerez de la route au-dessus de Cigale le canyon resserré, sinueux sur 3 km. Traversez le village d'Aiglun. Poursuivez un bon kilomètre. C'est étroit. Mais ce sont les 500 derniers mètres qui sont les plus compliqués. Abandonnez votre camping-car. La route est limitée à 2,80 m de hauteur. Les croisements sont absolument impossibles. Pas plus de 2 emplacements pour se garer lorsque vous arrivez à la clue. En été, avec l'affluence, il vaut mieux être plus prudent et laisser la voiture au village et finir à pied. au village, vous en profitez aussi si vous retournez, voir la cascade de Veuguet. Elle fait un bond de 140 mètres. Pas mal. La Clue des Glins, elle, est très spectaculaire. C'est une entaille, 400 mètres de hauteur et quelques mètres de large, et des eaux absolument cristallines. Un peu plus en aval, toujours sur l'Esteron, la Clue de la Cerise. Elle est accessible à pied, aucune difficulté. Depuis la barrière, vous laissez la voiture. 20 minutes de marche maximum. C'est un écrin dans lequel vous profiterez de piscines naturelles aux eaux turquoises et tumultueuses. Mais ne vous attendez pas à vous baigner dans une eau chaude. La rivière arrive des montagnes. Elle est un peu fraîche.
Oui, surtout toi, tu y allais en hiver, c'est sûr.
En plus, oui. Alors, dans ce cadre idyllique, il ne manquait que le pont pour réaliser une belle photo. Comme tu viens de dire, en été, il y a du monde. Là, moi, j'ai pu faire des photos tranquilles.
Tranquille, pénard.
Et même dronées. Retrouvons la vallée du Var. On descend vers Nice. On y arrive. L'eau arrive à la cascade de Guéraud. C'est le terminus du canal de la Vésubie, qui alimente donc Nice depuis 1883, après 32 km après son captage, et un parcours pratiquement sous forme de tunnel. Il ne s'agit pas de l'eau du Var, mais de celle de son affluent, et qui cascade sur les hauteurs à 5 km de la mer. Ici, tout est faux. Rochers, grottes, stalactites, branchages, tout est fait de ciment. Un chalet alpin surplombe des bassins et des cascades qui ont pour but d'oxygéner l'eau. Les cascades, leur but, c'est uniquement ça, faire joli et oxygéner l'eau. C'est un lieu touristique de promenade avec un panorama très intéressant. Un peu plus bas, l'embouchure et l'aéroport. Excessivement urbanisé, notamment depuis les années 1960, on est à proximité de l'aéroport, coincé entre une zone commerciale, le cours inférieur du Var est une zone importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Une petite Camargue, c'est ainsi qu'elle est nommée. C'est un abri de 45 hectares, une halte migratoire, deux nidifications, classées zone de protection spéciale Natura 2000. Ce site est soumis à des menaces d'origine humaine par les observations ornithologiques, photographiques, les promenades, les baignades, les barbecues, le paddle, les chiens errants et d'autres qui sont carrément illicites, le braconnage. La présence humaine y est donc limitée aux digues spécialement aménagées. La traversée de l'embouchure est interdite, tout comme la pêche. Elle doit rester un lieu de conservation de la biodiversité. Voici pour terminer, maintenant, un schmilblick.
Oula, oula.
Alors, on n'est pas sur le trajet du Var. On est plutôt sur le trajet qui m'a mené à Figanières pour faire la rando. Vous verrez les images sur ma vidéo, la rando de VTT. Alors, est-ce un temple? Est-ce un ouvrage militaire? Vu de l'extérieur, ça ressemble à un pigeonnier.
On le voit sur ta vidéo d'ailleurs.
Exactement. Donc ça ressemble à un pigeonnier avec des centaines de niches. C'est l'œuvre bizarre, unique et unique en Europe d'un ingénieur venu de Belgique, Achille Knappen. Une construction circulaire de 12 mètres de diamètre, une hauteur de 13 mètres, dont les murs ont une épaisseur de 2,50 m. Ils sont chapeautés par une coupole massive de 4 mètres d'épaisseur. Elle est percée de 7 rangées d'ouvertures qui font penser à des nids ou des trous barrés, comme on voit dans les maisons dans la région. À l'intérieur, un second cylindre, creux, bâti d'un diamètre extérieur de 3,20 m pour un diamètre intérieur de 1 m, une hauteur de 9 m. Il est recouvert par 3000 ardoises et puis un tube métallique creux depuis le sol sort là-haut à l'air libre. Entre les deux, un petit couloir permet la circulation de l'air et des personnes. Alors, vous avez trouvé? Je vais vous le dire, parce que vous n'avez pas l'inventé. Ça s'appelle un puits aérien. L'idée de récupérer la rosée du matin, celle qui mouille les chaussures quand on traverse l'herbe, comment la récupérer par condensation, cette humidité atmosphérique, et quelle quantité d'eau potable pourrait-on recueillir? Des archéologues avaient découvert en Ukraine un village aux multiples fontaines. Pourtant, pas de source, pas de cours d'eau. Il était malgré tout alimenté en eau potable. Il y a plus de 2000 ans, par des canalisations de grès venant de gigantesques cônes de pierre. De véritables condensateurs d'humidité de 30 mètres par 25 et d'une hauteur de 10 mètres, pouvant fournir quotidiennement une importante quantité d'eau. En 1905, un ingénieur testa au même endroit la construction d'un condensateur de 20 mètres de diamètre et d'une hauteur de 6 mètres, sur lequel le comme ils avaient entassé 2000 tonnes de galets, ils récupéraient 350 litres d'eau par jour. De son côté, Achille Knappen était un spécialiste des questions d'hygrométrie, en particulier de l'assainissement des maisons. Sa théorie, mieux vaut évacuer l'humidité d'un mur plutôt que de chercher son imperméabilisation totale. Ainsi, il place des ouvertures en haut et en bas des murs, puis utilise des sortes de drains en terre cuite qui évacuent l'humidité de condensation établie par la circulation de l'air. Cette technique portera le nom de siphon atmosphérique de Knappen. Ses recherches sauveront de célèbres monuments ravagés par l'humidité. Le siphon de Knappen sera appliqué ici, à Trans, en Provence. Comment ça marche ? La nuit, la circulation de l'air refroidit la masse au centre du puits. Tandis que le jour, l'air rentre par les trous de l'enveloppe en hauteur et se condense sur les ardoises. L'eau ainsi est récoltée dans une citerne. Revenons à ce puits à Trans. Après un an et demi de construction, il est achevé en 1931. La pratique va-t-elle confirmer la théorie ? Hélas, ce puits prévu pour des régions subsahariennes aux importantes amplitudes de température, mais testé ici à Trans en Provence, le défi était de taille. Le puits ne donna que quelques dizaines de litres d'eau par nuit. Par contre, on peut dire que l'essai fut malgré tout concluant sur le plan expérimental. Nous savons aujourd'hui que des condensateurs de rosée doivent se refroidir rapidement comme l'herbe des prés. Il aurait peut-être fallu alléger davantage la taille de celui de l'expérience. Il aurait sans doute fallu aussi préserver les observations et les expériences, mais Achille Knappen n'avait pas les moyens financiers pour poursuivre ses recherches onéreuses. Pour info, ce puits a coûté la bagatelle de, en euros, 500 000 euros.
Oh, voilà. C'est énorme.
Oui, énorme, oui. Bon, il a fait ça sur ses fonds propres et parce que ça l'intéressait, voilà. Ce projet aurait certainement été très valable en Afrique et ne connu aucune suite. C'est bien dommage de nos jours, compte tenu des sécheresses. Il mérite d'être protégé et davantage connu à Trans en Provence, car il est unique et certainement visionnaire pour les prochaines décennies. Terminons la découverte de cette région en VTT. Dans la série des randos exigeantes, en voici une qui se place en bonne position. Des descentes avec des franchissements de blocs, des parties d'équilibre au fond d'un lit rocheux de torrent, des sentiers étroits à la végétation méditerranéenne piquante et inabordable, de longues montées physiques. L'ensemble demande un certain niveau physique et technique. Les chemins mènent quand même à un point de vue rocher improbable sur les gorges de Château-Double, traversent des champs de panneaux photovoltaïques et reviennent par une descente rapide avec des sauts. Bien sûr, dur dur, hein ? J'en ai un souvenir encore.
Mais c'est bon, ça fait les mollets.
Oui. Voilà. Alors, je vous rappelle d'aller voir toutes ces images sur ma vidéo. La vidéo Histoire d'eau, sur le site Radio de Galaxie, ou sur mon site perso, Rando VTT Vidéo.
Et puis, n'oublions pas
la touche finale.
L'aquarelle de Nadine.
Avec la clue de la cerise aquarellée. Mois prochain,
oui.
Je vous emmène à la découverte de la Creuse, en forêt, Landes et Guéret. En attendant,
bougez.
Mais bougez en France.
Ok, ça marche, c'est parti.
Allez, à bientôt. Au revoir. Thank you.